I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Bonjour, bonsoir, bon appétit, choisissez ce que vous voulez, bienvenue à tous dans l'épisode 560 du podcast Touchdown Actu. Vous l'avez entendu, toujours pas d'Alain Mattei, je continue de prendre sa place, mais promis, il est pas très loin. Je suis en tout cas très heureux d'être avec vous pour la semaine de repos d'Alain, justement, et pour débriefer cette semaine 15, et à mes côtés, la fine fleur de l'analyse footballistique. Je voulais pas faire ça tout seul, Raphaël Masmejean. Comment ça va, Raph?
Salut Lucas, merci pour cette belle intro. Bah écoute, ça va, et toi?
Écoute, ça va, j'avais prévu pour ça pour toi et pour Grégory, mais bon, Grégory est parti, donc ça sera plus que toi, mais tu restes la fine fleur de l'analyse footballistique, t'inquiète pas.
C'est gentil.
Bon, écoute, déjà, avant de commencer, est-ce que cette semaine 15 t'a régalé?
Ah bah là, en termes de remontée spectaculaire et de scénario un peu loufoque, on a été gâtés. On en a un peu parlé hier, j'invite nos auditeurs à réécouter le podcast d'hier, mais on a d'aujourd'hui, du coup je me perds dans les dates de sortie, mais on a un peu parlé des problèmes d'arbitrage qu'on a un petit peu émaillé en fil rouge cette semaine, mais très belle semaine malgré tout.
Ouais, très belle semaine. J'ai l'impression que ça monte un peu crescendo. Beaucoup de matchs parce que vous en avez fait hier, aujourd'hui, tout dépend quand vous regardez et vous écoutez ce podcast. Mais vous en avez débriefé un petit peu. On va en débriefer d'autres. On en a 12 à débriefer et c'est tout de suite.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et on commence par l'AFC Est, les Bills face aux Dolphins. C'était un match samedi. Les Bills Buffalo qui a validé son billet pour les playoffs grâce à un superbe match, une victoire, un match un petit peu de série. Ce match-là, les Bills qui avaient bien commencé, qui étaient à 21-13 à la mi-temps. Puis il y a eu un troisième quart-temps assez sympa du côté de Miami qui est repassé devant 21-29 avec 16 points notamment inscrits par les Dolphins. Et puis enfin, il y a eu un quatrième quart-temps de très bonne facture des Bills, notamment de Josh Allen. Ils ont marqué 11 points en deux drives. On en reparle. Mais j'ai envie, une fois n'est pas coutume, de commencer un petit peu par les perdants. Raph, on va commencer par les Dolphins. C'est la troisième défaite consécutive, la troisième en décembre. Est-ce que c'est une dynamique qui t'inquiète du côté de Miami ou est-ce que le contenu t'a un petit peu rassuré tout de même?
Écoute, je partirais sur ta deuxième option. Le contenu vu dans ce match m'a plutôt rassuré, notamment le contenu offensif, hein, parce que c'était un peu le souci de ces Dolphins sur les deux derniers matchs. On pense aux défaites face aux 49ers et face aux Chargers. Où on avait vu vraiment une attaque, hein, toi Tagovailoa perdu, on va dire ça comme ça. Là, j'ai trouvé que globalement, offensivement, ça s'était plutôt bien tenu. On a un jeu au sol qui a repris vie malgré tout, hein, qu'on voyait plus trop ces dernières semaines. Ils font 188 yards au sol, 7,5 de yards par portée. Presque on pourrait même dire que Mostert n'est pas assez utilisé finalement, vu l'efficacité qu'il avait au sol. Bon, même s'il y a quand même une grosse course de 67 yards qui contrebalance un peu le truc, mais bon, j'ai trouvé que les receveurs étaient en jambes, le jeu au sol un peu plus efficace. Ils passent pas loin d'aller prendre presque une victoire surprise à Buffalo, que plus grand monde les voyait aller gagner, chercher, j'ai envie de te dire. Donc je serais presque rassuré par le contenu.
Ouais, rassuré un peu par le contenu, parce que tu l'as dit, offensivement, moi c'est mon cheval de bataille depuis quelques semaines, j'ai envie que cette équipe de Miami développe un peu son jeu au sol, et c'est vrai que tu l'as dit, on l'a vu, notamment avec Mostert, tu as parlé de ce bon jeu au sol, 188 yards, Tagovailoa qui a été plutôt correct, hein, ses statistiques, c'est 17 sur 30, 234 yards, 2 touchdowns, on a une ligne offensive qui a plutôt tenu, et du coup il y a quand même une défaite, donc j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui a pêché? Est-ce que c'est la défense? Est-ce que c'est la réponse facile?
Oui, c'est la réponse facile avec quelques jeux en défense où ils se ratent, mais en vrai, je sais même pas si c'est tant ça que juste des Bills supérieurs à la fin. Tu vois, il y a un moment, tu t'inclines aussi, ça arrive de s'incliner face à plus fort que soi, sans être mauvais, sans avoir fait un mauvais match. Mais comme tu l'as mentionné dans ta présentation du match, les deux derniers drives de Buffalo sont des classiques du genre, j'ai envie de dire, pour aller remporter le match. Et à ce moment-là, c'est juste une attaque de Buffalo plus forte qui déroule son jeu. Donc moi, j'ai presque envie de te dire, c'est pas tellement une erreur de Miami que juste Buffalo supérieur.
Ouais, justement, en parlant-en de Buffalo, je disais, ces deux drives, tu les as évoqués, ils sont impressionnants, ils arrivent à un moment important, parce qu'on l'a dit, Buffalo a été mené, 21-29, ils marquent ce touchdown qui convertissent pour revenir à 29 partout, puis ensuite, ils marquent ce field goal pour passer devant. Je parlais des statistiques de Tagovailoa, celles de Josh Allen, elles sont aussi impressionnantes, il y a 25 sur 40, 304 yards, 4 touchdowns inscrits, et puis auxquels il faut rajouter 77 yards au sol. Là aussi, Buffalo, ça faisait quelques semaines où on était un petit peu plus inquiet offensivement, notamment parce que la défense, globalement, elle tient quand même souvent. Mais offensivement, et tu étais le premier, je me rappelle, on en avait parlé, à dire c'est pas encore tout à fait rassurant. Est-ce que là, encore une fois, comme Miami, est-ce que tu es rassuré?
Il y a du mieux. Je suis pas totalement rassuré. Si on cherchait, on va dire, la perfection, je suis pas totalement rassuré dans le sens où... Josh Allen reste le meilleur coureur de l'équipe, ou encore une fois, je trouve que, et c'est la différence aussi avec les autres matchs, hein, mais en dehors de Dawson Knox qui se montre, il n'y a pas grand monde d'autre que, et Diggs habituellement, hein, on est dans le classique Diggs, on n'en parle même plus, mais bon, ouais, c'est pas encore parfait, mais malgré tout, effectivement, il y a quand même du mieux, parce que justement, tu as Dawson Knox qui sort de sa boîte et apporte une vraie menace supplémentaire, centre du terrain, physique, un joueur de grande taille, etc., donc qui est vraiment complémentaire de Stephen Diggs. Donc à partir de là, oui, il y a quand même des points positifs. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à vraiment continuer sur cette dynamique-là, parce qu'on voit qu'à partir du moment où Josh Allen a d'autres receveurs que Stephen Diggs, ça aide aussi malgré tout ce jeu aérien à se développer, quoi.
Ouais, c'est vrai que j'avais noté, on voit sur ce match, il n'y a aucun receveur qui dépasse les 100 yards. Tu as parlé de Dawson Knox, il a 98, il y a Stephon Diggs derrière à 60. Et après, c'est Gabe Davis 56, Singletary 28. Alors ça montre tout de même quand même un panel de cibles ou de joueurs qui peuvent attraper des ballons. Mais c'est vrai qu'il manque de... Alors il y a Stephon Diggs, il y a Knox, encore une fois, ce sont des joueurs incroyables, notamment Diggs. On va pas dire que c'est un joueur moyen, loin de là. Mais c'est vrai que ça manque peut-être un peu de soutien. Maintenant, Josh Allen, il est si fort qu'on a l'impression qu'il crée des joueurs, et tu parlais du sol, oui, c'est le meilleur coureur de son équipe, mais en même temps, quel coureur incroyable.
Oui, non, mais c'est effectivement, il a une capacité de course assez hallucinante à bien lire, à bien casser les plaquages. Donc, c'est intelligent, la manière dont il court est intelligente, et c'est toujours un plus pour cette équipe, et ça la fait avancer, et ça fait partie des moteurs de cette attaque. Donc, à quelque part, si ça marche comme ça, t'es pas forcé non plus d'insister au sol avec Singletary ou Cook ou je ne sais qui pour t'améliorer. Mais voilà, on sait que des fois, l'accumulation de courses pour un quarterback, c'est toujours un petit risque potentiel. Donc si tu peux faire un peu moins que 10 courses, moi je serais preneur aussi. Je trouve que 10 courses, ça commence à faire beaucoup pour un quarterback. Alors même si certaines ne sont pas tellement des courses appelées, c'est plus la situation qui te pousse à courir. Donc voilà, c'est encore différent, mais... Bon, et puis après, là où je te rejoins, c'est que moi je trouve que son dernier drive où Buffalo repart de leurs 5 yards à peu près, et il remonte quasiment tout le terrain en 13 actions, en 6 minutes, c'est vraiment une démonstration de ce qu'un quarterback doit et peut savoir faire pour être au top, et il distribue dans tous les sens, des jeux intelligents, aucune erreur de lecture, et puis ça avance mécaniquement, et en fait, progressivement, le drive avance, le chrono descend, et tu comprends que Miami, en fait, va pas stopper le field goal, que ça va aller au bout, et que Buffalo va l'emporter.
Ouais, ce sentiment un petit peu de puissance, de confiance, tu parlais de ce dernier drive, 15 jeux, en effet 86 yards de gagné pour le field goal de Tyler Bass à la toute fin avec 0-0-0 au chrono, même pas eu le temps pour Miami de tenter de réagir, c'est un peu aussi les Bills qui apprennent de leurs erreurs avec les Chiefs de l'autre côté. Voilà, je vais finir juste sur ce match, j'ai deux petites questions un peu provocatrices, est-ce que Josh Allen est le favori pour le titre de MVP désormais, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais Jalen Hurts, qui est peut-être le favori depuis le début de la saison, est peut-être blessé potentiellement. Il est en tout cas peut-être indisponible pour le match qui arrive et on verra. Mais si jamais il venait à pas jouer le prochain match, les deux prochains, les trois prochains, on verra. Est-ce que Josh Allen peut être le favori à cette course au MVP?
Moi, je crois pas. Je crois que le favori et je crois que celui qui va reprendre le trône est Patrick Mahomes, mais c'est un autre sujet. Je pense que l'ami Patoche, les Chiefs restent en course pour la première place en AFC, et s'ils la décrochent, vu la qualité de l'AFC, je pense que Mahomes sera vraiment pas loin de l'avoir.
Ouais, peut-être, c'est vrai que Patrick Mahomes sera pas loin. Et puis dernière question, pour terminer sur Miami, je l'ai dit, Buffalo est assuré de remporter sa division désormais. Miami vient de perdre 3 matchs consécutifs, ça devient un petit peu plus compliqué pour les playoffs, même s'ils sont toujours potentiellement qualifiés. Est-ce que Miami reste la deuxième meilleure équipe de cette division, avec les Patriots derrière à 7-7, les Jets aussi derrière à 7-7, est-ce que Miami reste la deuxième meilleure équipe de cette division?
Écoute, pour moi, oui, de par la puissance offensive et le nombre d'armes offensive, oui, parce que on reparlera, mais quand on voit les autres attaques, il va falloir que les défenses des Jets et des Patriots fassent des matchs énormissimes pour passer devant Miami, à mon sens, mais...
Ouais, eh bien, on verra ça. On va rester en AFC pour le deuxième match. Alors là, tu parlais d'attaque incroyable. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment dans ce thème-là pour ce match-là. Chargers face aux Titans. Los Angeles qui s'impose 17-14 face à Tennessee. C'était un gros match, hein. C'était un match qui était nul à 48 secondes de la fin. Alors nul, quand je dis nul, c'est le match, c'est le score qui était nul et pas le match. Ryan Tannehill qui marque avec un QB sneak pour égaliser. Mais les Chargers sans timeout avec 52 yards en 6 jeux, et notamment une passe dont on parlera peut-être, remonte le terrain en 44 secondes. Ils marquent là aussi un field goal de la gagne à 4 secondes de la fin. Cette fois-ci, ils ont laissé 4 secondes, mais ça a resté trop peu pour les Titans. On va continuer de parler des perdants, une fois n'est pas coutume, encore une fois, et après, promis, on commencera par les gagnants. Mais est-ce que pour les Titans, ça commence à être un petit peu chaud? Vous en avez parlé hier, je crois, les Jaguars ne sont plus très loin, et les Titans ne montrent plus vraiment grand-chose.
Effectivement, ça commence à être chaud, on l'a dit, vous pouvez réécouter l'épisode du jour, mais enfin d'hier, les Jaguars frappent rapidement à la porte des Titans, ils les mettent sous pression en tout cas, et oui, encore une fois, on voit un peu les difficultés de cette attaque, parce que la défense, à nouveau, a pas énormément à se reprocher sur ce match, ils prennent 17 points, globalement, ils font déjouer Justin Herbert une grande partie du match, donc... Finalement, de nouveau, cette défense de Tennessee fait son boulot. Mais encore une fois, c'est par l'attaque que le bas blesse. Voilà, le jeu aérien ne se développe plus du tout. Tannehill est perdu cette saison. Il n'est pas aidé par sa ligne offensive. Il n'est pas aidé par une escouade de receveurs qui ne monte pas en puissance, qui ne monte pas en régime, qui a connu quelques blessures. Et Derrick Henry n'arrive pas à tout faire, ne peut pas tout faire. Et ça passe moins bien. Et là, pour le coup, les défenses, elles ont vraiment quasiment plus qu'à mettre 6-7 joueurs dans la boîte, attendre qu'Henry arrive, le bloque, et puis on passe à autre chose, quoi.
Je trouve que ce match, il est véritablement symptomatique de ce que tu dis, parce que on le sait, les Chargers sont une équipe, Los Angeles est une équipe qui est très mauvaise historiquement et spécialement cette saison contre la course. Et on se disait, notamment dans les previews, que les Titans allaient faire du mal. Alors oui, Derrick Henry, il gagne 104 yards pour 21 courses sur ce match. Ça fait 4,9 yards par course, ce qui est trop, très honorable, qui est très bon. Mais on voit la limite quand même de ce schéma offensif parce que, tu le disais, les Chargers du coup chargent la boîte, défendent sur la course et puis ils vont se faire trouer de temps en temps, mais ils vont quand même résister parce qu'ils sont concentré et quasiment focus que sur ça. Alors Ryan Tannehill était blessé, mais je trouve que c'est vraiment le match où on voit les limites tout de même de ce schéma offensif un peu restrictif.
Oui, non, mais complètement, tu l'as dit, c'est restrictif. Quand tu vois que finalement c'est Henry le meilleur receveur en plus de l'équipe avec 4 réceptions, Tu sens, et c'est pas cette spécialité à Derrick Henry, hein, les réceptions. Donc tu sens que là, les squads de cibles, Tannehill n'a pas forcément d'alchimie avec, n'arrive pas à les retrouver. Alors il y a un backfield défensif des Chargers, ce qui n'est pas inintéressant, hein, qui est même plutôt performant ces dernières semaines. Mais bon, voilà, c'est les limites du système Titans pour le moment.
Et on va passer aux Chargers. Justin Herbert, on retient quoi en fait tout simplement dans ce match-là? Parce que je ne l'ai pas dit, mais il lance deux interceptions. Mmh. Il a 28 sur 42, 313 yards. Il n'y a aucun touchdown, il y a ces deux interceptions. Mais en même temps, il y a cette superbe passe dont je parlais tout à l'heure sur Mike Williams. Il y a un dernier drive quand même globalement maîtrisé qui permet à son équipe de gagner. On retient quoi à la fin de ce match-là? Le début un peu compliqué ou la fin qui permet de gagner?
J'ai envie de te dire peut-être la fin, mais là ça serait la casquette optimiste, on va dire la fin, parce que je trouve que c'est le genre de match que les Chargers perdaient ces derniers temps, l'an dernier, même cette année, ce genre de match un peu compliqué qu'ils perdaient à la dernière seconde. Et la semaine dernière ils surprennent tout le monde, ils battent Miami, et c'était le genre de match dans lequel ils tombaient dans le piège et la course au playoff se compliquait, etc., etc. Là, je trouve que mine de rien, être capable d'aller finir ce match face aux Titans, qui n'est pas une équipe simple à jouer, malgré le contexte, les interceptions, les punts, etc., je trouve que peut-être, ça y est, on peut se dire que Los Angeles commence à trouver une sorte de déclic pour aller gagner ces matchs serrés. À
oui,
confirmer.
Surtout que tu le disais, la semaine dernière, ils gagnent sur un match qui est quand même relativement offensif, on va dire, avec en tout cas leur force offensive. Là, c'est peut-être un peu la défense qui prend le dessus. Donc, c'est vrai que ça montre qu'ils sont capables de gagner un peu sur tous les niveaux, et puis surtout qu'ils sont capables de gagner ces matchs un peu serrés. Donc, c'est vrai que c'est important. Dernière chose que je voulais noter aussi, je ne sais pas si tu as vu l'image de Mike Vrabel après le QB sneak de Tannehill, qui a le choix, à quelques secondes de la fin du match, de tenter cet extra point et d'égaliser, ou de tenter la conversion à deux points, et on sent sur la rapide image qu'il hésite énormément. On le sait que c'est un coach, ouais, qui a eu pour habitude de tenter ce genre de choses là et là on l'a senti beaucoup hésiter, hein.
Ouais clairement, comme tu dis, tu sens qu'il a l'hésitation. Je peux comprendre, c'est vrai que la question à ce moment là se pose de pourquoi pas essayer de rendre la vie un peu plus dure aux Chargers. Bon, au final je pense que ça change pas grand chose à la fin, hein, mais oui.
Oui, ça aurait pu mettre peut-être un peu plus de pression aux Chargers, qui auraient joué avec la peur de perdre plutôt que la peur, oui, d'aller en prolongation. Mais bon, ça, on ne le saura pas, comme tu le dis. Et puis pour les Titans, ça commence à être un peu chaud avec les Jaguars qui arrivent derrière. Raiders, Patriots, le prochain match toujours en AFC. Las Vegas qui s'impose 30-24 face à New England. Et puis là, on a l'action la plus what the fuck, hein, j'ai envie de dire, la plus n'importe quoi pour la traduction française de la saison. Je vous mets un peu dans le contexte, hein, c'est un match qui commence globalement classique. Les Raiders, ils partent très fort, ils mènent de 14 points à la mi-temps. Et puis ensuite, ils commencent à craquer. Jusque-là, c'est du classique, c'est Las Vegas, c'est les Raiders. New England revient, ils repassent même devant, ils mettent un 21-0. Encore une fois, rien d'extraordinaire. Et puis, il y a les Raiders qui égalisent. Alors ça, c'est bien. Ils égalisent à 32 secondes de la fin. Et puis New England qui a un dernier ballon pour marquer. Ils tentent une course avec Ramondre Stevenson, qui d'un coup décide de passer la balle à Jacoby Meyer, qui lui décide de passer le ballon sur une longue passe latérale de quasiment 20 yards. Franchement, si vous n'avez pas vu l'image, je vous conseille de la regarder. Le ballon qui tombe dans les mains de Chandler Jones. Et puis là, c'est un touchdown. C'est même pas une interception, c'est un fumble parce que la passe est derrière, mais c'est tout comme une interception. Mac Jones qui n'arrive pas à plaquer, et les Raiders qui gagnent sur ça. Moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui est le plus choquant dans cette histoire? Est-ce que c'est que ça arrive? Est-ce que le plus choquant, c'est pas que ça arrive aux Patriots, eux qui ont eu l'habitude, en tout cas qui ont créé un peu une dynastie en évitant absolument ce genre d'erreur mental, j'ai envie de dire, et là ça arrive à New England, c'est relativement surprenant quand même.
Exactement. Alors tu sais quoi, moi je trouve que finalement cette action, elle incarne beaucoup des, elle illustre pas mal ce qu'on dit un peu depuis un moment autour du coaching des Patriots. Je suis d'accord, c'est surprenant que ça arrive à New England par rapport à l'habitude qu'on avait de New England et cette franchise, et effectivement c'était ce genre d'équipe qui ne faisait pas ce genre d'erreur. Sauf que depuis cette année, je trouve que finalement, cette action, elle correspond au n'importe quoi autour de Matt Patricia. C'est, même le jeu en tant que tel n'a pas de sens, ce qu'ils appellent. Ils n'ont pas le temps de se positionner pour un field goal, il y a le temps de rien faire. Cette course, en fait, n'a pas d'intérêt. Et Matt Patricia met ses joueurs en position de faire une action qui n'a pas d'intérêt. Et après, les mecs, il y en a un qui pète une durite, mais...
Il n'y en a pas qu'un,
mais si tu veux, cette action en vrai n'a même pas de sens dans la façon dont elle est appelée, dont elle est jouée. Alors après, c'est peut-être un problème que Mac Jones soit pas capable de lancer une Ave Maria à ce moment-là, à cette distance-là, ça peut être un autre débat. mais je trouve qu'elle incarne le problème de décision de New England actuellement, avec un coach offensif qui ne sait pas vraiment quoi faire à ses joueurs. Je trouve que ça s'est vu en plus à de nombreuses reprises encore une fois dans ce match. Et du coup, bah, on appelle un jeu bizarre et on demande à Jacoby Meyers et de... Enfin voilà, je trouve que ça incarne pas mal finalement ce qu'on dit autour de Matt Patricia.
Ouais, je voulais te demander par la suite, mais tu viens d'y répondre, qui il faut blâmer pour cette action ? Est-ce que c'était Jacoby Meyers qui fait cette erreur mentale ? Est-ce que c'est Stevenson ? Est-ce que c'est le play calling ? Est-ce que c'est Mac Jones ? Parce que franchement, il aurait pu... Alors je dis pas que c'est facile de plaquer un Chandler Jones, mais il aurait pu au moins faire un petit effort quand même, parce que là vraiment, il y a vraiment aucun effort. Quand on sait que c'est le dernier rempart, à la limite, un petit effort. Mais bon voilà, pour toi c'est le coaching, c'est vrai que c'est des choses qui n'arrivaient pas avant et c'est assez symptomatique, je suis assez d'accord avec toi. Pour parler des vainqueurs, les Raiders qui sortent un peu miraculés de ce match-là, ils sont à 6-8. Est-ce qu'on croit encore un peu au play-off ou il y a trop de lacunes et ce serait miraculeux pour Las Vegas ?
Ça me paraît compliqué le retard à rattraper devant. Maintenant, avec une action miraculeuse qui te relance comme ça, j'ai envie de dire que la chance a peut-être tourné et a changé de... les mouches ont changé d'âne, comme on dit. Ou de cheval, d'ailleurs, je sais pas.
Ouais. Les ânes.
Les ânes. Tu confirmes ? Ça doit être une expression du Sud, ça, non ?
C'est une expression du Sud et en plus qui est relativement utilisée dans le rugby. Donc
bah, tu connais bien du coup. Et non, mais voilà, franchement, quand je vois un truc pareil, je me dis, bah, pourquoi pas hein, des retournements de situation cette saison, on en a vu plusieurs, et se dire que les Raiders, par chance, un peu, vont en chercher encore 2-3 cette saison, pourquoi pas ? Après, quoi qu'il en soit. Par rapport au mastodonte qu'il y a en AFC, ils n'iront pas faire grand-chose. Hein. Je ne vois pas très bien en play-off. À mon avis, ça, vu les lacunes qu'ils ont, ça se fait découper par les grosses équipes d'AFC. Hein.
Oui, déjà, si les Raiders arrivent à accrocher la wild card, ce serait déjà un miracle pour la première saison de Josh McDaniels. Mais c'est vrai qu'ils en sont loin encore. Il y a eu le retour de Darren Waller et d'Hunter Renfrow sur ce match-là. On ne l'a pas beaucoup vu, 3 réceptions, 48 yards. Il y a Davante Adams qui a été muselé. Cette attaque, elle est vraiment inconstante. Alors, elle a affronté une équipe de New England qui était pas mal. Mais on a du mal à trouver de la constance chez Derek Carr, chez Josh Jacobs. C'est vrai qu'elle est frustrante, cette équipe, je trouve.
Ouais, elle est frustrante parce que t'as des matchs où Davante Adams est surutilisé, surtrouvé, des fois avec succès, des fois un peu moins, mais et puis d'autres fois c'est Josh Jacobs et t'as pas l'impression qu'il y a beaucoup d'identité. Derek Carr est pas transcendant quand même. Donc oui, je te rejoins, c'est pas le potentiel maximal à mon avis de cette attaque est pas utilisé. Je sais pas si c'est McDaniels qui a pas forcément d'idée d'identité ou s'il a pas encore réussi à installer ce qu'il voulait. À voir s'il reste en tout cas dans les prochaines semaines. Mais oui, je te rejoins.
Bon, en tout cas, sur cette fin de saison, ces deux équipes qui sont encore dans la course pour se qualifier en play-off. J'ai parlé des Raiders à 6-8, les Patriots sont à 7-7, mais on est assez d'accord pour dire que l'une comme l'autre des deux équipes, mais déjà si elles se qualifient en play-off, ça sera bien, ça sera un peu plus compliqué si jamais il y a match de play-off. On verra ça pour la suite. Le match d'après, Browns-Ravens. Alors celui-là, c'est le match de samedi. Je te parle d'une superbe semaine depuis tout à l'heure. J'avoue que celui-là, c'est quand même pas le plus beau. Victoire des Browns 13-3. C'est la première victoire d'Deshaun Watson depuis qu'il est à Cleveland, depuis qu'il est titulaire, sous ses nouvelles couleurs. C'est un succès 13-3 dans un match relativement cadenassé. Il n'y a eu qu'un seul touchdown. Il est arrivé dans le troisième quart-temps. C'est une passe de Deshaun Watson pour Donovan Peoples-Jones. Ça a suffi pour les Browns. Est-ce que Deshaun Watson, on va parler de lui, est-ce que tu le vois continuer de progresser dans le sens où est-ce qu'il prend de plus en plus de place dans cette attaque ou sur ce coup-là, il peut plutôt remercier sa défense ?
Bien entendu, il peut remercier sa défense. Après, je l'ai trouvé quand même de plus en plus en jambes. Il y a également 2 field goals qui sont ratés par les Browns. Alors, ça fait que 6 points au compteur, mais malgré tout, c'est quand même des drives qui avancent où l'équipe et où Watson met en position son équipe pour marquer des points. Et derrière, le kicker sera. Donc, disons que l'addition finale aurait pu être aussi un peu plus élevée avec le kicker en réussite. Donc, ça, à mon sens, ça montre quand même que Watson fait de plus en plus avancer cette équipe et de plus en plus serein dans ses passes, trouve de mieux en mieux ses receveurs. C'est encore loin des meilleures performances de Watson à Houston, mais par rapport à il y a 3 semaines, c'est déjà en progrès. Donc, voilà, peu importe ce qu'on pense du joueur maintenant, il est sur le terrain. Et je trouve que c'est de plus en plus une bonne nouvelle pour Cleveland, pas pour cette année, mais pour l'an prochain.
Oui, on est d'accord pour dire que de toute façon, Cleveland, à ce moment-là de cette saison, ils sont à 6-8, hein, comme les Raiders, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'encore une fois, on a du extrêmement de mal à les voir en play-off. Là, ils travaillent pour la saison prochaine en intégrant ce quarterback. Encore une fois, on parle que du terrain, mais en intégrant ce quarterback dans cette attaque, ça travaille vraiment pour la saison qui arrive.
Oui, non, mais c'est ça. C'est ça.
En face, il y a les Ravens, Baltimore qui perd. Alors, il n'y avait toujours pas Lamar Jackson. Ils ont couru 28 fois pour 198 yards. Ça fait 7,1 yards par course. Généralement, quand il y a ces statistiques-là à Baltimore, c'est quand même bon signe. Et en fait, là, ça perd 13-3. Je trouve que c'est une équipe, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qui ne peut pas vraiment jouer en étant menée, notamment quand Lamar Jackson n'est pas là. C'est une équipe qui doit prendre le score rapidement, gérer le temps avec ses belles courses. Mais là, c'est trop compliqué quand ils sont menés. Ils ont du mal à faire la différence. Encore une fois, je le répète, sans Lamar Jackson.
Oui, ils ont du mal à faire la différence. Il y a quand même chose assez rare du côté de Baltimore. Il y a deux field goals ratés par Justin Tucker et un bloqué. Bon, mine de rien, ça fait 9 points aussi potentiels de plus qu'aurait pu les rapprocher. Voilà, c'est assez rare pour être souligné. Comme tu dis, ils n'ont pas le jeu aérien pour remonter. On l'a vu, Huntley a essayé, mais c'est des passes microscopiques qui ne font pas vraiment avancer. Derrière, tu as des cibles pas franchement rassurantes à l'image de Demarcus Robinson. Donc oui, non, ils peuvent pas. Après, moi, sur ce match-là, les choix de jeu de Baltimore m'étonnent quand même. Il y a plus de passes que de courses. Sincèrement, je suis très sceptique sur ce choix-là. Quand tu vois comment la course est avancée, Dobbins, il est utilisé que 13 fois pour 125 yards de gain quand même. Et 125 yards de gain avec la course la plus longue 37, hein, donc en plus c'est pas une énorme course et derrière que des petits gains, c'est vraiment malgré tout pas mal de gros gains. Voilà, et quand tu vois en deuxième mi-temps les ballons qui perdent, c'est une interception d'Huntley et un fumble de Robinson sur un jeu de passe, je me dis qu'ils auraient peut-être dû un peu plus bourriner au sol et y aller comme New England avait battu il y a quelques temps Buffalo en ne jouant quasiment qu'au sol, et tant que ça marche on y va en fait. Et là-dessus je pense une petite erreur de coaching de Baltimore.
Oui, c'est assez rare pour le signaler, mais en effet, on voit les statistiques de Tyler Huntley, c'est 17 sur 30, 138 yards, et il y a 28 courses. Donc en effet, il y a un petit peu plus de passes. Alors après, c'est peut-être aussi mené par le fait qu'ils étaient derrière.
Ouais, mais pas très loin au score, tu vois, c'est pas un écart non plus insurmontable à la course, hein, franchement.
Je suis d'accord, surtout qu'on voit Tyler Huntley qui est saqué 3 fois, et cette ligne offensive de Baltimore, elle a plutôt bien tenu contre la course, en tout cas pour ouvrir des brèches à la course. Je l'ai dit, 7,1 yards par course, c'est quand même énorme. Ouais. Mais par contre, à la passe, c'était plus compliqué. Miles Garrett s'est un peu régalé, et il y a 3 sacs. Donc je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'on aurait peut-être pu un peu insister sur la course. Après voilà, Lamar Jackson n'était pas là, pourrait, on verra, à l'heure où on parle, c'est pas sûr, mais il pourrait rejouer ce week-end. Est-ce que aussi c'est quand même pas la vraie différence que va faire, même si avant d'être blessé, il n'était pas aussi bon qu'en début de saison, mais il rassure et puis il est capable de mettre beaucoup plus d'incertitudes dans cette équipe.
Ouais, je suis d'accord, ça sera pas le même visage offensif, c'est certain, c'est certain, ça va apporter plus de variété, donc oui, je te rejoins là-dessus.
Voilà, les Ravens qui ont laissé passer les Bengals devant dans la AFC Nord, mais qui restent tout de même à portée de tir avec un bilan de 9-5 et espèrent retrouver Lamar Jackson. On en parlera peut-être un peu plus dans la preview de cette semaine 16. Demain, Chiefs Texans, 30-24, la victoire de Kansas City. Kansas City qui a été de manière un peu surprenante obligé de passer par une prolongation. On a Houston qui a égalisé à 24-24 sur un field goal à 5 minutes de la fin. Les Chiefs qui ont eu deux occasions de gagner, avec notamment un field goal manqué de 51 yards. Il y a eu aussi le premier drive en prolongation qui n'a rien donné. Et puis en fait, c'est la défense. C'est de la défense qui est venue le salut, une fois n'est pas coutume pour Kansas City, avec un fumble provoqué sur David Mills. Le jeu suivant, c'est Jedrick McKinnon qui inscrit le touchdown de la GAN sur une course de 26 yards. Voilà, Kansas City qui est en playoff avec cette victoire, ils sont assurés d'être champions de la division. Alors je te fais un petit test, c'est la 7e fois qu'ils sont champions d'affilée Kansas City. C'est pas le record c'est les Patriots, c'est assez facile, mais est-ce que tu sais combien de fois ils ont été champions d'affilée?
Je serais monté peut-être jusqu'à 9.
Ah, un peu plus, ils sont à 11.
Ah, 11, 11, quand même.
11 victoires de division d'affilée. Alors c'était un moment où la division n'était pas incroyable, mais on le voit, c'est dur de gagner une division ouais. NFL. Et 11 fois d'affilée, déjà on voit les Chiefs à 7 d'affilée, c'est impressionnant. Alors au-delà de ça, ça fait 2 semaines que les Chiefs ils sont un peu en dotis. La semaine dernière aux Broncos, ils avaient été très bons, puis un peu moins, puis un meilleur sur la fin. Là ils passent par une prolongation. Est-ce qu'on a un sentiment que ça monte en puissance? On n'a pas vraiment ce sentiment-là du côté des Chiefs, eux qui ont l'habitude de monter en puissance à l'approche des playoffs. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça.
Non, effectivement, il y a pas ce sentiment-là. La différence par rapport à la semaine dernière, c'est que cette semaine, l'attaque est à peu près irréprochable, alors que la semaine dernière, c'est l'attaque et les interceptions de Patrick Mahomes qui avaient compliqué le match. Là, c'est la défense quand même qui prend beaucoup, beaucoup de points et de yards contre les Texans. Donc là-dessus, c'est un peu étrange cette dynamique. Un coup, c'est l'attaque, un coup, c'est la défense. Je te rejoins. C'est, ils ne montent pas en puissance comme des Bengals, comme des Bills, etc. Maintenant, sur un peu leurs fondamentaux, on va dire, qu'ont fait leur succès ces dernières années, c'est-à-dire un gros Patrick Mahomes et quelques big plays en défense qui font la différence, bah, ils continuent à le faire. Ils continuent à le faire malgré tout. Donc, je te dirais pas que je les sens incroyables ni rien, mais à la fin, encore une fois, on fait le bilan, ils sont à 11-3 quoi, et j'aimerais pas, et s'ils prennent la première place, faudra aller jouer à Kansas City. Moi je suis pas plus inquiet que ça par ce match.
Non, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'inquiétude. Encore une fois, quand on voit les statistiques, il y a 189 yards au sol. Travis Kelce est encore très bon avec 105 yards. Patrick Mahomes, c'est 36 sur 41, 336 yards de touchdown. Maintenant, je te trouve un peu avec l'attaque, je te trouve un peu gentil dans le sens où elle est irréprochable, mais en même temps, elle a deux occasions, je l'ai dit, pour plier ce match-là. Alors oui, il y a un field goal manqué de 51 yards, mais on a connu un Patrick Mahomes capable de mettre son kicker dans des meilleures situations, et pas plus tard que très récemment. En prolongation, c'est eux qui ont le ballon, qui des fois l'ont pas eu et ont perdu sur ce genre d'action-là. Ils ont le ballon, ils en font rien. Je trouve qu'on les a connus plus tueurs, en fait, c'est ça.
Oui. Non, mais effectivement, je te rejoins.
Après, c'est peut-être aussi un peu de désinvolture. On en parlait la semaine dernière. Il y a deux turnovers encore sur ce match-là. Il y a 102 yards de pénalité. C'est vrai que les Chiefs, ils sont un peu parfois désinvoltes. On verra. De l'autre côté, les Texans, j'ai envie de dire que c'est presque le match parfait pour eux. Ils font un match accroché, mais ils perdent à la fin. Donc, c'est le scénario parfait.
Ouais, c'est ça. Ils continuent leur revue d'effectifs, on va dire ça comme ça, pour mettre en jambe certains joueurs, mettre en valeur d'autres. Bon, comme tu dis, c'est le match parfait. Mine de rien, depuis deux semaines, c'est mieux ce qu'ils proposent à Houston.
Ils ne sont pas en train de sauver Lovie Smith.
Je sais pas quand même. S'ils vont réussir à le sauver avec une victoire, je t'avoue que je suis pas. Bon, ouais, peut-être, je sais pas.
En tout cas, toujours est-il que c'est vrai que je trouve qu'ils se battent. Tu le disais, ça fait deux semaines. La semaine dernière, les Cowboys ont été obligés de s'employer jusqu'à la fin. Là, les Chiefs vont en prolongation. En plus, voilà, ils ne mettent pas en danger leur choix de draft qui pourrait être le plus haut possible en continuant de perdre. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour les Texans. Ce qu'ils proposent, comme tu dis, c'est pas des blowouts en tout cas. Après, il y a Jeff Driscoll qui rentre de plus en plus dans la rotation au poste de quarterback. Est-ce que ça veut dire qu'on ne croit plus vraiment en Davis Mills ou qu'on veut mettre un peu de 109?
Non, je crois que ça veut dire qu'on croit plus particulièrement en Davis Mills. Bon, après, ça dépendra toujours de ce qu'ils font aussi au poste de coaching, j'ai envie de dire, à l'intersaison. Mais j'ai le sentiment que là, ils ont vu en début de saison ce qu'ils voulaient voir avec lui. Ils se sont dit que ça le ferait pas et que s'ils ont le premier choix, a priori, ils peuvent pas passer à côté d'un quarterback qui amène plus. Donc, pour moi, la page, elle est tournée, ouais.
Bon, la page tournée, on verra pour Houston, à qui il reste encore trois matchs comme tous les autres. On a contenté certainement les amoureux de l'AFC avec tous ces matchs. On a parlé beaucoup de cette conférence. Promis, dans la suite, on parle de la NFC.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
Les Seahawks et les 49ers, c'était le match de jeudi. les 49ers qui se sont imposés à Seattle 13-21. Ils se sont aussi assurés le titre de la NFC West. C'était les premiers à s'assurer le titre de division. Alors c'est un peu plus facile quand on joue le jeudi avant tout le monde, mais en tout cas voilà, c'était les premiers. Et puis surtout dans ce match-là, je sais pas si tu as ressenti comme moi, mais ils ont jamais tremblé. Il y avait 21-3 en début de deuxième mi-temps, puis il y a eu 21-6 pendant longtemps. Seattle qui sauve l'honneur en fin de match avec un touchdown, mais franchement les 49ers ont dominé de bout en bout. Et puis je vais te poser une question, on en a parlé un peu avec Victor la semaine dernière en parlant des Eagles, en disant que c'était la meilleure équipe de la ligue, on tendait vers ça, mais est-ce que San Francisco est pas l'équipe la plus en forme?
Est-ce que San Francisco est pas l'équipe la plus en forme?
J'ai pas dit la meilleure, j'ai dit
non, je réfléchis, c'est bien possible effectivement. La dynamique pour le coup est vraiment de leur côté,
cette victoire consécutive.
Ouais, on les sent monter en puissance. Là, je crois qu'ils ont eu le lot de blessures sur ceux qui devaient l'être. Et je pense qu'ils vont finir avec cela. Enfin, en tout cas, je croise les doigts pour eux. Oui, c'est effectivement, en termes de dynamique actuellement, ça peut être la meilleure équipe de NFC, de la Ligue, je sais pas, de NFC, je te rejoins. Ouais.
Et c'est beaucoup dire quand on sait que la meilleure équipe en termes de bilan pour l'instant est en NFC. Hein. On rappelle, les Eagles sont en NFC et ont la meilleure équipe. Mais c'est vrai que San Francisco, ils sont impressionnants. Et puis on parle de quarterback, c'est un peu, encore une fois, alors c'est pas tant l'attraction, mais c'est le joueur qu'on regarde un peu le plus près, parce que Brock Purdy, c'est un rookie qui est le troisième quarterback, qui est titulaire. Là, il est à 17 sur 26, 217 yards, 2 touchdowns. Il est bien aidé par Kittle et McCaffrey, mais il fait quand même pas beaucoup d'erreurs, ce quarterback, depuis qu'il est titulaire.
Non, il en fait aucune. Hein. Franchement, il est précis, il est globalement à l'aise dans la poche pour un rookie, surtout drafté à cet endroit-là et qui monte sur le terrain comme ça à la fin de la saison en étant le quarterback numéro 3, puis le 2, puis le 1. Donc ouais, je le trouve précis. Alors bien entendu, encore une fois, faut féliciter le boulot de Shanahan qui met son quarterback dans ces dispositions-là et qui s'arrange pour que ça paraisse plus simple, en tout cas, ce qu'il a à faire. Donc tant mieux. Et puis il est porté aussi par cette défense qui finalement laisse tellement rien passer à l'adversaire que je pense qu'il y a un côté serein à jouer, quoi. Tu sais que même si au pire tu fais une petite erreur en attaque, potentiellement ta défense va rattraper le coup derrière, donc ça doit aider. Malgré, je pense que psychologiquement ça aide aussi le jeune quarterback de se dire que si lui se foire, t'as quand même la défense derrière qui va pouvoir aider. Voilà, après j'ai envie de dire que le test qu'il y aura pour lui, ça sera le moment où San Francisco va être, si ça arrive, mené de 10, 13, 14 points et qu'il va falloir aller chercher le match. Après peut-être que ça leur arrivera pas et tant mieux, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu le dernier test, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est le test. On a vu que c'était un peu la limite de Jimmy Garoppolo. On n'a pas eu assez de matchs pour voir les limites de Trey Lance, je trouve. Oui. Mais on le sait, c'était la limite de Jimmy Garoppolo, parce que quand tout allait bien, c'était très bien pour Jimmy Garoppolo. Mais c'est vrai, dès qu'il fallait un peu sortir du contexte et un peu plus ouvrir notamment le jeu, notamment en profondeur, c'était un peu plus compliqué pour Garoppolo. Purdy a montré un petit peu qu'il pouvait un peu plus lancer un petit peu plus en profondeur, et notamment sur les lignes de touche aussi. On sait que c'est les lancers parmi les plus compliqués, mais c'est vrai qu'il n'a pas encore été véritablement testé, parce que de l'autre côté il y a cette défense là je parlais de 7 victoires consécutives sur les 7 derniers matchs, ils ont encaissé que 11 points de moyenne. C'est absolument hallucinant. Cette défense là elle est impressionnante, mais on a envie de se demander qu'est-ce qui fait qu'elle est si forte.
C'est une bonne question, parce qu'en vrai, quand tu regardes sur le papier par exemple le backfield défensif, cornerback, safety, bon, je veux dire, il n'y a pas sur le papier, il n'y a pas de joueur élite, il n'y a pas de top player. C'est clairement pas ces joueurs-là que tu mettrais en premier dans ton roster si tu avais le choix de le bâtir. Enfin, ils ont été récupérés Charvarius Ward des Chiefs un peu à l'arrache à la free agency. Ufanga arrive un peu de nulle part. Mais ça marche. Je pense que, bien sûr, cette domination, elle est basée sur le front seven. Et Nick Bosa, notamment, qui fait un boulot monstrueux dans les défenses adverses, et il met tellement la pression que les quarterbacks adverses sont poussés à la faute, et ça facilite le travail de ses cornerbacks. Donc la ligne défensive, mais je pense qu'ils sont très bien coachés par DeMeco Ryans, hein. Enfin, parce que c'est quand même un groupe qui était globalement à peu de choses près le même l'an dernier, et t'avais pas ce résultat-là, pas aussi fort en tout cas. Donc ouais, moi je dirais ligne défensive et le coach.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'on se rappelle ce qu'on disait un petit peu en début de saison, on se disait que c'était ce backfield défensif qui était un peu peut-être la faiblesse de cette défense. Alors c'est peut-être la ligne qui est la moins bonne parmi les autres, mais c'est pas vraiment une faiblesse quand on voit qu'on prend que 11 points par match sur les 7 derniers matchs, on voit que c'est une défense qui a plus beaucoup de faiblesses. Et d'ailleurs, on le voit dans ce match-là, pour revenir à ce match-là et notamment à Seattle, on a eu l'impression, malgré ce touchdown en fin de match, je l'ai dit, que Seattle pouvait pas faire grand chose en attaque, c'était très compliqué pour cette équipe des Seahawks.
Ouais, complètement. Ils étaient bloqués contre la course, ils étaient bloqués à la passe, ils prenaient l'eau sur la ligne offensive. Donc oui, c'était compliqué. Tu vois que je regardais un peu là les stats, mais quand c'est un truc que j'avais pas vu pendant le match, mais quand tu vois que le meilleur plaqueur du côté de San Francisco, c'est Demeodor Lenoir, leur cornerback, qui sort d'à peu près nulle part cette saison. Quand une défense se met à faire briller ce type de joueur, c'est qu'en général, il y a des fondements tellement solides que tes ajustements et tes touches, ceux qui arrivent à la fin, peuvent même briller, quoi. Donc ouais, je te rejoins.
Un petit mot sur Geno Smith, qui, je trouve, est pas forcément celui qui est le plus à blâmer sur ce match-là. Il est à 31 sur 44, 238 yards, un touchdown. J'ai l'impression qu'il a juste pas vraiment été aidé. C'est un peu récurrent depuis quelques semaines. Kenneth Walker était revenu, mais il était blessé. On n'a pas semblé le voir à 100%. La ligne offensive a été moyenne. Les receveurs sont un peu aux abonnés absents depuis quelques temps. Je trouve que, alors que ce serait facile de taper sur lui, mais je trouve que c'est un peu le seul qui essaye de sortir la tête de l'eau dans cette attaque depuis quelques semaines.
Je te rejoins. Je pense qu'il n'est pas, particulièrement responsable là de ce match-là, en tout cas de cette situation. Pas de jeu au sol. Enfin, tu as égrené la liste, hein, donc je te rejoins globalement là-dessus. Geno Smith fait vraiment une saison intéressante qui est, je trouve, casse-tête hein, pour le front office de Seattle sur ce qu'il faut faire à la free agency. Est-ce que tu prends un quarterback en projet que tu peux laisser derrière un an derrière Geno Smith ou pas? Enfin, il interroge hein, parce que sa saison est quand même de bonne facture.
Oui, et même de très bonne facture, et je suis assez d'accord, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire les Seahawks. Est-ce qu'ils vont continuer avec lui en misant tout ou plus ou moins tout sur la construction de l'effectif autour ou pas? On le sait, les quarterbacks peuvent être un peu irréguliers. Peut-être que l'année prochaine il sera tout aussi bon, peut-être qu'il sera moins bon. C'est vrai que c'est compliqué, c'est une vraie question, et on verra un peu ce que les Seahawks vont faire dans le futur. Encore que, ils sont pas encore totalement éliminés de cette course au play-off. Ils sont encore dans la course. La dynamique est plus très bonne. Mais ils peuvent continuer. Et ils vont se battre, notamment dans cette NFC, face aux Lions. Les Lions qui sont allés battre New York du côté des Jets, à New York. Et là, on reparle d'un match incroyable. Hein, ces deux équipes qui avaient besoin de cette victoire-là. Ils sont à 10-10 à la mi-temps. Et puis là, il y a un mano à mano qui commence en seconde période. Les Jets reprennent l'avantage dans le quatrième quart-temps avec le deuxième touchdown de CJ Uzama. Puis c'est Jared Goff qui trouve Brock Wright sur un TD, un touchdown de 51 yards en quatrième tentative, incroyable, dans les deux dernières minutes en plus. Et là, les Jets ont l'occasion d'égaliser. Il manque le field goal, Greg Zuerlein qui manque le field goal de la prolongation à 58 yards. New York qui s'incline. Pour Détroit, ça fait la sixième victoire en 7 matchs. Ils sont à 7-7. J'ai envie de te dire, est-ce que ça y est, c'est officiel, ils sont prétendants au play-off, là, ça y est, on peut le dire, on peut le marquer.
Ah bon, on peut le dire, à 7-7, tu parlais tout à l'heure d'équipe avec la meilleure dynamique en NFC, ils en sont pas loin, alors c'est pas la même puissance que San Francisco, mais en termes de dynamique ces dernières semaines, ils sont assez costauds, surtout que je trouve que leurs fondements, on va dire les fondamentaux, sont vraiment de bon niveau du côté des Lions. La ligne offensive est bonne. La ligne défensive est de plus en plus excellente et met de plus en plus la pression, ce qui est un peu la surprise, je trouve, cette année, de ce côté-là. Jared Goff continue son bon travail. En attaque, ils alternent entre la course, la passe. À mon sens, c'est une équipe alors qui manque peut-être un peu de talent, mais qui est de plus en plus complète. Et quand tu vois le reste des équipes en NFC, ouais, moi, je les vois capables d'aller chercher la 7e place ou en tout cas de la manquer de très, très peu, quoi. S'ils la ratent, ça va vraiment pas se jouer à grand-chose. Donc ouais, non, c'est l'équipe en forme du moment. Voilà, comme je le disais, je les trouve complets à peu près partout. Ça joue bien dans tous les secteurs de jeu. Il manque peut-être ce talent élite à 2-3 postes pour faire passer le palier, tu vois, le vraiment le top player. Mais l'effectif est de plus en plus convaincant, ouais.
Ouais, de plus en plus convaincant. Tu parlais de cette dynamique. Ils ont commencé le championnat, on le dit, à 1-6. Ils sont à 7-7. Et puis, ils ont une véritable chance d'aller en playoff. Je regardais leur calendrier. Ils jouent contre Carolina, Chicago et Green Bay. Dans la dynamique actuelle, c'est 3 matchs qu'ils peuvent gagner. Globalement, s'ils gagnent ces 3 matchs, il y a quand même beaucoup de chances qu'ils soient en playoff. Alors, c'est pas fait. On le sait que Détroit peut perdre des matchs un peu improbables. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils montrent de belles choses. Et notamment en attaque, parce que là, il n'y a que 20 points. Mais c'est quand même face à la défense des Jets qui, pour le coup, est quand même une escouade à New York qui a montré sa qualité et sa régularité. Ils arrivent à trouver des solutions. Tu l'as dit, que ce soit dans la course ou dans les airs. Jared Goff qui est encore une fois plutôt correct. 23 sur 38, 252 yards, un touchdown. C'est vrai que cette attaque-là, moi, elle m'attire dans le sens où elle est capable de battre des défenses qui sont très costauds. Et on le sait, si jamais il y a play-off, ou en tout cas pour aller en play-off, il faut faire ce genre de performance.
Ouais, effectivement, comme tu dis, il résiste notamment très bien à la defensive line des Jets, hein, qui arrive pas à saquer Jared Goff, et qui a même globalement un peu de mal à lui mettre la pression. C'est une attaque qui a été construite assez intelligemment, en fait, qui, par manque, j'ai envie de dire, de top joueurs sur les postes de receveur, de coureur et de quarterback, s'est dit, on va d'abord solidifier la ligne offensive, et avec une très bonne ligne offensive, ça va permettre à des joueurs moyens plus, parce qu'on reste en NFL, on reste dans... Voilà. Mais ça va permettre à ces joueurs-là de briller plus facilement, parce qu'il y a de la solidité autour d'eux. Donc ça, là-dessus, ça a été fait assez intelligemment. Effectivement, l'attaque, tu as raison de le dire, il n'y a que 20 points, mais c'est une belle performance face aux Jets.
En face, les Jets en attaque, il y avait le retour de Zach Wilson, on va en parler un petit peu. Mike White qui était blessé, on a remis le quarterback qui a été drafté l'année dernière. Est-ce qu'on a vu un Zach Wilson différent, ou est-ce qu'on a vu le même Zach Wilson avec ses qualités et surtout ses faiblesses?
Personnellement, j'ai envie de te dire que j'ai vu le même Zach Wilson. Quelques belles passes, mais malheureusement, encore une fois, j'ai envie de dire que beaucoup de quarterbacks sont capables de faire des belles passes en NFL. C'est pas tellement ce qui te distingue, en fait, de faire des belles passes quand t'es quarterback. C'est plutôt la régularité avec laquelle tu les fais, et surtout la prise de décision et la gestion de la poche. Et là, encore une fois, j'ai trouvé qu'en termes de prise de décision, c'était pas bon du côté de Zach Wilson. Donc,
son interception, elle est sale.
Même il est sauvé sur une troisième ou quatrième tentative par Garrett Wilson, qui va chercher une réception un peu... what the fuck, la balle elle est lancée n'importe comment en l'air, et puis par miracle ça arrive dans les bras de Wilson qui voit la balle, enfin bref, il est sauvé à 2-3 reprises par ses receveurs. Donc voilà, moi je pense qu'encore une fois, après c'est sûr, il en est à peine à 2 ans, donc c'est peut-être pas fini, mais je vois toujours les mêmes défauts, et c'est des défauts qui pour moi sont rédhibitoires en NFL, donc c'est ça qui m'embête en fait du côté des Jets. Alors après oui, il est pas aidé par sa ligne offensive, hein, qui a quand même pris beaucoup de pression. Mais je trouve qu'il n'aide pas non plus sa ligne offensive, parce qu'il prend pas les bonnes décisions dans la poche. Donc le tout dans le tout fait que tu arrives à une attaque qui a du mal à mettre les points, quoi.
Oui, et puis surtout que cette ligne offensive, certes, elle est perfectible, elle est loin d'être celle des Lions en face, mais quand on voit un autre quarterback derrière cette ligne offensive, Mike White notamment, alors certes, c'est pas le Tom Brady de la grande époque, mais il fait moins d'erreurs, et pourtant c'est la même ligne offensive qu'il y a devant lui. Là où je te rejoins, c'est que Zach Wilson, il est bon, je dirais, quand on sort un peu du script, quand on sort un peu de ce qui est écrit, de la décision, de la lecture, il a un talent physique, c'est indéniable, et il est capable de faire des choses, mais le problème, c'est qu'un quarterback, c'est pas viable d'avoir un quarterback comme ça en NFL, et le problème qu'il a, c'est que New York commence à être de plus en plus performant un peu de partout, et il va plus avoir beaucoup de chance on va le laisser progresser, faire des erreurs. Quand on voit New York qui a 7-7, ils ont plus trop l'attitude de se permettre, ils peuvent jouer les playoffs. Alors après, on parlait de dynamique tout à l'heure pour les Lions, celle des Jets elle est beaucoup moins prenante, on va dire, elle est plus vers la pente descendante, et puis surtout il y a 3 matchs encore face aux Jaguars, aux Seahawks et aux Dolphins. Difficile de les imaginer en playoff, non?
Je te rejoins, difficile, parce que la place, la septième place va se jouer de manière assez chère du côté de... Je pense que pour arracher la septième place, va falloir être à 10 victoires en fait en AFC. Et donc là, ça voudrait dire faire un sans faute sur la fin. Ça s'annonce pas facile quand même. Va falloir des très très grosses prestations défensives pour aller chercher ces 3 matchs. Face aux Jaguars qui sont chauds, face aux Dolphins qui joueront leur qualification en playoff à coup sûr sur ce match-là. Pareil, comme toi, je suis un peu sceptique, mais la saison est déjà plus ou moins réussie comptablement et sur ce qui a été montré. Donc, peut-être un mal pour un bien de reculer d'avancer de quelques choix à la draft finalement.
Ouais, c'est vrai que ça va être compliqué, mais bon, justement, hein, faire un tout petit point sur les playoffs en AFC, on va croire qu'on est amoureux de cette conférence, mais c'est juste parce qu'on en parle. Mais on l'a dit, Buffalo, Kansas City sont automatiquement déjà qualifiés, assurés de gagner leur division. On a les Bengals qui sont en tête de leur division, tout comme les Titans. Et puis derrière, les wildcards, les trois places de wildcard, pour l'instant, c'est Baltimore qui est à 9-5, les Chargers qui sont passés à 8-6 et qui sont passés à la 6ème place, et les Dolphins à 8-6. Et en embuscade, tu parlais, il y a les Patriots à 7-7. Les Jets à 7-7, les Jaguars, vous en avez parlé hier, à 6-8, et les Raiders qui sont un peu derrière. Mais voilà, ça va être compliqué, il y a beaucoup de place et cette conférence elle est très chargée. On va passer encore une fois, repasser à la NFC. Bears face aux Eagles, la meilleure équipe, en tout cas l'équipe avec le plus gros bilan, le meilleur bilan de cette saison NFL pour l'instant. Les Eagles qui continuent leur parcours. Une victoire à Chicago, 25-20. Pourtant, ils ne se sont pas donné la tâche facile un peu Philadelphia. Ils ont vu Chicago provoquer 3 turnovers face à eux. Il a fallu des coups d'éclat de Jalen Hurts pour s'en sortir. Le QB qui lance 37 passes, 22 complétés, 315 yards gagnés. Et puis surtout, il y a 3 touchdowns au sol sur 61 yards gagnés. Je sais pas ce que tu en as pensé de ce match, mais c'est un peu voilà, ils ont eu un peu plus de difficultés qu'à l'accoutumée, et notamment Jalen Hurts, malgré ses statistiques, c'est pas son meilleur match quand même.
Non, c'est pas son meilleur match à la passe, parce que à la course, globalement, ça a quand même fait son effet. Bon, il s'est blessé en cours de match, hein. Il a fini le match un peu diminué, donc à quel point ça a aussi ralenti progressivement sa capacité à jouer, ça sera à voir, à surveiller. Non, c'est pas un beau match de Philadelphie, de Hurts. Maintenant, bon, ça, encore une fois, je trouve, c'est ce qu'on a beaucoup dit cette saison, ils arrivent à gagner de différentes manières. Là, la défense a vraiment aidé à maintenir Justin Fields en face. Ils font le strict nécessaire en attaque. Peut-être qu'ils auraient pu courir un peu plus aussi. Donner un peu plus de ballons à Miles Sanders, notamment, je pense, qu'à 11 courses. C'est pas énorme.
112 yards au sol seulement. C'est vrai que c'est une équipe qui nous a habitués à gagner un peu plus de yards dans ce
match. Ouais, c'est ça. Puis au final, 17 portées pour Hurts, 11 pour Sanders. Bon, tu pouvais peut-être un peu plus équilibrer vers Sanders. Voilà, après, moi je te dis encore une fois, je trouve que ça gagne. On le voit cette saison, des matchs compliqués, c'est toutes les semaines quasiment.
Pour toi, c'est une victoire défensive, parce que on le voit, hein, la défense a mis pas mal a posé pas mal de soucis à Justin Fields, tu l'as dit. On a Hassan Reddick qui a 2 sacs, un fumble récupéré. En globalité, Philadelphia arrive à gagner 6 sacs, ils ont été solides. C'est vrai que cette défense-là, on n'en parle pas beaucoup parce que Jalen Hurts est dans la course au MVP,
bien sûr,
mais cette défense-là, elle est quand même impressionnante tout de même.
Elle est impressionnante, et surtout, je trouve son pass rush progressivement est devenu très très bon. Le début de saison du pass rush n'était pas terrible, et là, ils sont montés en régime au bon moment, parce que pour le coup, on va pas se refaire année par année, mais j'ai quand même pas souvenir de beaucoup d'équipes qui vont loin sans un gros pass rush, surtout en playoff. Donc ils arrivent au meilleur moment là-dessus. Donc cette défense, pour le coup, monte en régime, je trouve, à l'image de sa ligne défensive. Et c'est ça qui est de bon augure, à mon avis, pour la suite.
Oui, c'est de bon augure. Alors après, tu l'as dit, Jalen Hurts s'est un peu blessé. Je crois que c'est l'épaule. Il a été touché à l'épaule. C'est peut-être aussi ça qui a un peu altéré sa passe. Il est incertain face aux Cowboys. Il joue les Cowboys ce week-end. On ne sait pas s'il va jouer. Les Eagles, ils sont sûrs d'aller en playoff, mais par contre, paradoxalement, ils ont le meilleur bilan, mais ils ne sont pas sûrs de remporter leur division encore, parce qu'il y a les Cowboys qui sont pas loin. Et puis surtout, c'est une équipe qui vise la première place de la conférence pour gagner peut-être cette semaine de repos. Et là, pour le coup, il y a encore les Vikings qui sont derrière, il y a encore les 49ers. C'est peut-être Gardner Minshew qui va passer quarterback sur un match, peut-être deux, peut-être trois, on fait du football fiction. Mais est-ce que pour toi, si Jalen Hurts est absent sur un ou plusieurs matchs, est-ce qu'ils peuvent conserver, notamment parce que tout ce qu'on a dit là, peuvent conserver cette première place de conférence?
Je pense sincèrement que oui. Je pense qu'ils peuvent la garder. Ils ont 3 matchs pas évidents, parce que tu as 2 matchs de division, Cowboys et Giants, et on sait très bien que c'est jamais très facile, ces matchs-là. Mais bon, il y a aussi les Saints. Ouais, moi je pense qu'avec une victoire, ils gardent la première place. Je pense qu'avec une seule, ils peuvent l'avoir.
Oui, parce que derrière, j'ai dit, ce sont les 49ers et les Vikings, mais ils ne sont pas tout à fait derrière, puisque les Vikings sont à 11-3, donc deux matchs de retard, ouais, et San Francisco à 10-4, donc trois matchs. Il faut faire un match, ça pourrait être et c'est possible avec cette défense-là, qui remporte un match sur les trois que tu as cités. Un petit mot sur les Bears tout de même. Alors, c'est une équipe qui a 3-11, mais je trouve que c'est une équipe bizarre, parce que quand on les regarde, je n'ai pas l'impression que c'est l'une des pires équipes de la ligue. On a Justin Fields qui fait des choses tant bien que mal. On a cette défense qui est pas mauvaise, même si elle prend pas mal de jeux en profondeur, des gros jeux. C'est un peu ce qui a sauvé d'ailleurs les Eagles sur ce match-là. Elle est un peu difficile à cerner quand même, cette équipe des Bears.
Je te rejoins, pareil. Quand je les vois, je n'ai pas l'impression que c'est une des pires équipes de la ligue. Tu l'as dit, hein, je pense que ça joue aussi beaucoup au fait qu'il y a un quarterback comme ça qui donne le sentiment de faire avancer son équipe, même si ça se finit pas toujours bien, même si ça va pas toujours au bout, t'as le sentiment qu'il se passe quand même des choses. Voilà, après, bon, on va pas le redire, mais équipe avec beaucoup de carences et de lacunes sur beaucoup de postes, donc c'est pas suffisant pour faire mieux, mais je trouve aussi qu'il manque pas grand chose pour que ça passe rapidement d'un 3-11 à 6-7, tu vois. Je trouve qu'il manque pas grand-chose, clairement.
Saints-Falcons, un duel de NFC Sud. Les Saints qui ont gagné...
Je crois qu'on peut le passer.
Ouais, on peut le passer. Alors, en plus, pour être honnête, j'ai dû en faire le résumé de ce match-là pour le site dimanche. En effet, c'était pas grandiose. Alors, pour les fans des Saints et des Falcons, on va en parler, puisqu'en plus, il y a des choses peut-être intéressantes à noter. Mais c'est vrai que les Saints se sont imposés. Ils n'ont pas vraiment tremblé non plus. À chaque fois que les Falcons revenaient, ils ont su faire la différence. On a une défense qui provoque le fumble qu'il faut sur Drake London en quatrième quart-temps pour entériner la victoire. Mais encore une fois, je vais revenir à ce que je faisais en début de ce podcast-là. On va parler des perdants, parce que du côté des Falcons, c'était le premier match de Desmond Ridder. Tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais je l'ai trouvé quand même relativement en difficulté, pas très bon dans ses lectures. Je ne le connaissais pas. C'est plus un secret pour personne. Je ne suis pas forcément un connaisseur d'universitaire, donc je le découvrais. Et c'est vrai qu'il ne m'a pas emballé. Il finit à 13 sur 26, 97 yards. Les Falcons, peut-être, arrivent même à en regretter Mariota sur ce match-là.
Ouais, peut-être, effectivement, il était pas bon, il était peut-être même pas prêt, ce qui laisse comprendre peut-être pourquoi Arthur Smith l'a gardé aussi longtemps au chaud. Bon, alors après, la défense des Saints, c'est pas forcément la plus facile à jouer sur un premier match, parce qu'il y a un peu plus de talent que ce qu'elle n'a montré cette saison, et elle peut être un peu plus compliquée, mais oui, non, c'était pas bon, hein. Y a rien dans le jeu de passe, enfin, j'ai trouvé que ça manquait de puissance, de rapidité, d'aisance dans la poche, enfin, sincèrement, il lui a tout manqué, mais c'est un premier match. Voilà, c'est un premier match. Donc, de toute façon, ça ne demande qu'à être complété par d'autres matchs.
Oui, c'est ça. Ça demande à être complété. Et en effet, on risque de le voir un peu plus souvent. En tout cas, certainement que les Falcons vont le tester. La seule chose que peut-être j'ai bien aimé, c'est cette connexion quand même avec Drake London, que j'ai trouvé assez déjà naturelle. Alors oui, il y a ce fumble dont on a parlé tout à l'heure. Mais je l'ai dit, Desmond Ridder, il a complété 13 passes. Sur ces 13 passes, il y en a 7 pour Drake London. Donc vraiment, voilà, il a cherché ce joueur-là qui est rookie aussi. C'est deux joueurs qui devraient jouer ensemble peut-être de longues années. Donc c'est déjà bien d'avoir une petite connexion. Il y a eu un très bon jeu au sol aussi avec Al-Jair qui fait 17 courses en 39 yards, un touchdown. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, en attaque, c'était un peu compliqué. Un petit mot quand même sur les gagnants, les Saints, qui reviennent toujours à un match dans cette division. Cette division qui, on va le dire, est quand même la pire hein, de NFL. C'est franchement pas facile, pas difficile de l'affirmer. Mais les Saints sont encore dans la course. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les jeunes joueurs qui se sont montrés quand même du côté de New Orleans. On a Juwan Johnson qui est seulement dans sa troisième saison, qui marque deux touchdowns. On a Rashid Shaheed qui est le rookie, qui marque un touchdown. Chris Olave, on l'a vu déjà depuis le début de la saison. En défense, il y a Alante Taylor, le rookie cornerback, qui est aussi bon, qui a été bon sur ce match-là. Voilà, les Saints, ils vont peut-être pas aller en playoff, encore que, mais ils ont de quoi un peu construire quand même dans cette saison qui est quand même pas forcément agréable.
Oui, comme tu dis, encore que, parce qu'ils ne sont plus qu'à un match de la première place de division.
Comme tous les autres.
Comme tous les autres, donc bon, après tout, pourquoi pas, hein, je veux dire, ça paraît plus improbable au point où on en est. Ouais, tu l'as dit, la bonne nouvelle, c'est ces rookies, enfin c'est ces jeunes joueurs en tout cas qui se montrent. Bon, voilà, après, ça reste pas... ça reste décevant, je trouve, en tout cas à titre personnel, par rapport à ce que j'en attendais en début de saison. Je les voyais quand même un poil plus fort que ça. Donc là, ça fait partie des bons matchs qu'ils ont fait cette saison, mais j'ai peur que dès la semaine prochaine, on retombe rapidement dans un match très moyen, quoi.
Oui, c'est possible, c'est possible. Surtout qu'en effet, ils sortent pas une énorme performance. Après, voilà, tu l'as dit, ces deux équipes-là sont à 5-9. Ils sont à un match des Buccaneers dont vous avez parlé hier. Ces deux équipes qui sont en course. Allez, si tu dois donner l'équipe qui va remporter cette division avec les Panthers dont on va parler juste après, tu dirais qui ?
Ouais, je vais encore donner l'avantage à Tampa Bay.
Tampa Bay, très ouais. Bien. Bah écoute, on va parler des Panthers qui avaient l'occasion de dépasser Tampa Bay parce que Tampa Bay a chuté, vous l'avez entendu. Les Panthers avec une victoire seraient repassés devant et puis se sont inclinés à domicile face aux Steelers. Les Steelers qui ont fait un match un peu poil à gratter, hein, ils ont vraiment embêté, ils ont fait la différence en première mi-temps, en fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Ils ont marqué deux touchdowns au moment de cette pause, autour de cette pause-là et notamment avec des drives qui ont été très longs. Les Steelers, ils n'ont pas grand-chose à jouer en cette fin de saison, mais on le sait, c'est une équipe qui ne va rien lâcher. Sur tous les matchs, ils vont être accrochés. Alors, ils vont manquer peut-être de talent, mais ils vont accrocher. Et ils arrivent parfois à faire déjouer des équipes. Et là, j'ai l'impression que ça a été un peu l'exemple parfait. Ils ont fait déjouer Carolina, qui était sur une bonne dynamique.
Ouais, j'avoue que c'était un peu une des victoires surprises cette semaine. Je trouvais que la dynamique du côté de Carolina était bonne ces deux dernières semaines. Je m'attendais à ce qu'ils arrivent à l'emporter, surtout face à une équipe de Pittsburgh menée par Trubisky. Mais en fait, Pittsburgh a bloqué ce qui marche le mieux à Carolina, le jeu au sol. Carolina finit quand même avec 21 yards pour 16 portées, ce qui fait un tout petit 1,3 yards de gagné par course.
C'est pas beau.
C'est pas beau. C'est clairement pas beau. Et du coup, bah, ils ont dû passer un peu plus que ces dernières semaines. Alors, Darnold n'est pas si mauvais à la passe, mais ça suffit pas en fait. Ça n'a pas suffi à faire avancer comme il le fallait cette équipe. Ça n'a pas été décisif en tout cas dans les passages dans le camp adverse. Donc ils se plantent là-dessus, j'avoue que ça m'a un peu surpris, et j'ai même été presque aussi déçu finalement par la prestation défensive de Carolina, je pensais qu'ils avaient un peu plus d'armes pour embêter Trubisky et compagnie. Donc voilà, effectivement comme tu l'as dit, ils perdent, là pour le coup moi j'ai presque l'impression, j'ai envie de te dire qu'ils perdent face à une équipe mieux coachée en fait.
Oui, c'est ça. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique de ces équipes-là qui font quelques matchs, qui commencent à nous hyper. On se dit, pourquoi pas, parce que c'est une équipe qui a le vent en poupe. En plus, la division est jouable. Et puis, quand il faut continuer, valider et puis passer à autre chose, bah, ils chutent. Et ça les ramène à leurs conditions d'équipe en construction, d'équipe, comme tu le dis, qui est peut-être pas forcément très bien coachée. Et c'est vrai que c'est un peu décevant et frustrant. Et de l'autre côté, il y a les Steelers, tu l'as dit. Je trouve que, pour moi, le symbole de cette équipe et sur ce drive sur lequel ils devraient s'appuyer, c'est le drive en deuxième période. C'est un drive qui a été. Alors, c'est exceptionnel, ils ne font pas toujours ça, mais c'est un drive qui a été très long, notamment amené par Mitch Trubisky. Tu l'as dit, c'est peut-être surprenant, mais il l'a fait. C'est un drive qui leur a permis de marquer. Et je regardais, 21 jeux, 91 yards, quasiment 12 minutes de temps de jeu égrené à l'horloge. Je trouve que Pittsburgh, ils doivent s'appuyer sur ça. Cette équipe-là, elle doit faire ça en attaque. Elle a pas assez de talent pour faire exploser tout le monde. Et elle doit faire ce genre de drive-là. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tant qu'ils ne trouveront pas un quarterback incroyable et des receveurs, c'est ce genre de drive-là sur lesquels ils doivent s'appuyer.
Ouais, complètement. Non, mais je te rejoins. Je n'ai rien à ajouter.
Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, on passe à la suite. Encore une fois, je vais me faire taper sur les doigts si on est trop long. Mais forcément, il faut qu'on parle de tous les matchs. On en a 12. Et j'essaye de jouer la carte du beaucoup de matchs pour ne pas me faire taper sur les doigts si on est trop long. Écoutez, si on est trop long, vous pouvez couper. On va passer au Packers-Rams. Celui-là, c'était le match, le Monday Night Football. Le dernier qu'on a vu. Green Bay qui s'impose 24-12 face aux Rams. Un peu un retour sur terre pour Baker Mayfield. Les Packers qui sortaient de leur semaine de repos, qui se sont imposés avec une défense solide, opportuniste. Il y a eu deux touchdowns dans le troisième quart-temps qui ont fait l'écart. Les running backs, ils ont été bons. C'est une semaine de repos qui a fait beaucoup de bien à Green Bay et à Aaron Rodgers.
Ouais, elle a fait du bien. Je trouve même, j'ai presque envie de te dire, plus à la défense, moi. J'aurais même dit plus côté défensif. J'ai trouvé, alors bien sûr, en face, il manque pas mal de joueurs, mais en tout cas, assez affûtée et efficace dans ce qu'elle avait à faire, notamment mettre la pression à Baker Mayfield pour vraiment éviter, empêcher qu'il puisse prendre feu. Et se sentir trop en confiance, donc ça ils l'ont globalement bien réussi. Après sur le jeu offensif je suis un peu plus nuancé que toi, c'était correct, mais j'ai trouvé ça peut-être un peu ronronnant, quoi. Tu vois, le jeu aérien, il n'y a pas eu de gros jeux à aller chercher, ça. Bon, après la défense en face c'est pas mauvaise non plus, hein. On peut toujours lier ça à l'adversaire, mais ouais, match correct mais sans plus, j'ai trouvé sincèrement en attaque.
C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai été un petit peu plus emballé parce qu'on a un Aaron Rodgers qui fait 229 yards. Alors certes, c'est pas incroyable, mais il est à 22 sur 30. Il touche 8 receveurs différents. Mmh. Je l'ai dit, on a les bons running backs. Il s'est mis en mode un peu distributeur. Et je trouve que c'est un peu la recette pour gagner du côté des Packers. Alors, il gagne ce match et tous les titres américains, c'était peut-être un peu pour appâter, mais disent que les Packers sont encore dans la course aux playoffs avec cette victoire-là. Est-ce qu'on y croit encore ?
Ça me paraît un poil compliqué pour eux. C'est pas injouable, mais sachant que t'as quasiment trois équipes de NFC Est qui vont y aller, ça fait beaucoup de choses à remonter.
Je te dis ça parce que c'est une équipe qui a 6-8, et en effet, ce matin, en se levant, parce que forcément, on enregistre le mardi, vous l'avez compris désormais, mais en lisant certains articles, oui, les Packers toujours dans la course aux playoffs, ouais. Et c'est quelque chose qui est revenu. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis pas, parce que je suis assez d'accord avec toi, pour moi, ils sont trop loin, mais je me suis dit, est-ce que c'est moi qui réalise pas à quel point ils sont dans une bonne dynamique, ou c'est peut-être plus pour attirer les lecteurs?
Ouais, j'aurais tendance à dire un peu plus pour attirer les lecteurs. Et puis vous aurez l'occasion d'en parler jeudi, etc., ou même dans nos futurs podcasts. Mais bon, les trois matchs qui restent, c'est Dolphins, Vikings et Lions. Il n'y a rien de donné, hein.
Oui, et puis ouais, voire même il n'y a rien de facile, voire ouais. même ils sont pas favoris peut-être sur trois, au moins deux de ces trois matchs, ouais. Voire trois.
Hein. Ouais, c'est ça. Donc j'y crois pas trop quand même.
Ouais, difficile d'y croire. Un petit mot en face, la lune de miel entre les Rams et Baker Mayfield, elle a pas duré longtemps quand même.
Ouais, bon, après, c'est effectivement, il fait pas un bon match, mais encore une fois, le contexte pour lui est pas évident. La ligne offensive est mutilée par les blessés, il y a personne pour le protéger, il y a plus de receveurs. Enfin, tu vois, j'aurais bien aimé, non pas forcément, mais disons qu'il peut pas non plus lutter à armes égales. Il a pas Cooper Kupp, il a pas ces receveurs là pour l'aider. Bon, je trouve qu'il est pas mauvais dans ce qu'il a à faire, il est juste pas... honnêtement, Los Angeles va peut-être réfléchir aussi à le garder un peu, hein, parce qu'ils ont pas de choix de draft au premier tour. Stafford, on sait pas dans quel état il va revenir.
Ah, tu es pas en train de réjouir les supporters des Rams, là.
Non, mais bon, d'ici à ce qu'ils servent de quarterback bridge encore 3-4 matchs en début de saison prochaine, moi je suis pas loin d'y croire, hein, donc...
Ouais, bon. On a vu ce que ça a donné à Carolina quand même.
Ouais, je sais bien. Après, on peut espérer qu'avec Matt Rhule, il soit un peu meilleur en remplaçant. Maintenant qu'il n'est plus avec Matt Rhule, je veux dire, et qu'il est avec McVay, tu vois.
Avec McVay, oui, c'est possible. Écoute, on verra ça. En tout cas, les Rams sont officiellement éliminés de cette course au playoff, mais il n'y avait plus trop de doute. Le champion qui n'ira pas en playoff. On termine avec ce duel de QB remplaçant, les Broncos face aux Cardinals. Denver qui s'impose 24-15, hein, dans ce duel entre Brett Ripien. Je te vois rigoler, en effet, et on est obligé d'en parler, Raph. Je sais que ça t'attriste, mais on est obligé de parler de ce duel entre Brett Ripien et Colt McCoy. C'était pas le plus sexy, c'est une victoire qui s'est faite notamment en deuxième mi-temps. Il y avait 6-3 à la mi-temps. Les Broncos ont fait une belle série de 3 touchdowns en 4 drives. Et en fait, quand je vois ça, je me dis que c'est quand même frustrant, parce que Denver, c'est simplement ce dont ils ont besoin depuis le début de la saison. C'est quelques bons drives pour marquer des touchdowns. Après, on voit que la défense, elle fait le travail.
Ouais, je vois ce que tu veux dire sur ce côté frustrant. Effectivement, tu te dis, pour le coup, mais c'est déjà un peu ce qu'on se disait l'an dernier, hein, que Denver, ils étaient un quarterback prêt d'aller en playoff et de jouer les premiers rôles en playoff. Bon, bah, ouais, c'est confirmé. Alors, on s'attendait à ce que ce soit Russell Wilson. Wilson ne l'a pas fait. Et c'est presque confirmé, comme tu le dis, avec Ripien, dans le sens où, à partir du moment où le quarterback limite ses erreurs, bah, cette équipe est suffisamment costaud pour aller remporter des matchs. Alors, après, ils remportent. Là où je nuancerais peut-être aussi, c'est qu'ils remportent un match face aux Cardinals qui, eux, dont la chute ne s'arrête plus, quoi. Je veux dire, c'est de pire en pire ce qu'ils proposent match après match. Mais oui, globalement, je rejoins l'idée qu'on voit qu'avec quelques bons drives, ça aurait pu suffire cette saison à avoir un bilan meilleur que 4 victoires.
Oui, les Cardinals qui ont été en grande difficulté. Alors oui, il y avait Kyler Murray n'était pas là, mais comme tu l'as dit, c'est de pire en pire. Ils marquent un touchdown en fin de match alors que le score est fait. Ils prennent 3 touchdowns par les Broncos, parce que ça marche aussi dans l'autre sens. Ouais. On dit que les Broncos en attaque, ils ont été bons, mais ils prennent quand même 3 touchdowns. Donc c'est vrai que ça a été compliqué. Bon, c'est deux saisons un peu à oublier, ou en tout cas sur lesquelles il faut travailler du côté des Cardinals et des Broncos, qui sont à 4-10 et 4-10 les deux équipes. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce match-là, mais c'est vrai que c'est difficile d'en tirer des leçons dans deux équipes qui n'ont même plus leur quarterback, qui jouent leur semaine 15 un peu, pas en dilettante, mais qui n'ont plus rien à jouer.
Ouais, effectivement. Allez, si on veut tirer une petite leçon côté Arizona, c'est que depuis 2-3 semaines, on voit de plus en plus leur tight end rookie Trey McBride, qui est vraiment pas inintéressant dans le jeu de réception. Voilà, s'ils arrivent à repartir sur bonne base aussi avec lui, ça peut aider l'an prochain. Mais c'est, là, c'est vraiment pour être gentil avec les fans des Cardinals, parce qu'on ferait...
Bah, on finit sur une bonne note. T'as bien raison, on termine sur une bonne note. C'est toujours sympa de terminer le podcast sur une bonne note. C'est ainsi que se termine l'épisode 560 du podcast Touchdown Actu. Écoute, moi j'ai beaucoup aimé, Raph, j'espère que t'as apprécié.
Exactement, c'était un vrai plaisir, Lucas.
Bah écoute, voilà, je sais pas si mon contrat sera renouvelé, sachant en tout cas que Alain a fait une grosse erreur de me mettre une fois parce que je bouge plus. Maintenant, je serai là demain aussi avec Victor pour la preview de la semaine 16. Et puis toute la semaine, il y aura encore beaucoup de choses sur Touchdown Actu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas tous les hashtags et les hats qu'il faut pour tous les réseaux sociaux, mais je doute pas que vous les avez. En tout cas, toute l'actualité est à retrouver sur le site. Et ça, c'est le plus important. Merci. Raph.
Bah merci à toi.
Et puis on se dit à très vite. Ciao ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rodgers, Global Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Ever googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there. Especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.